Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est parti pour des commentaires sur le premier sujet de bac de chimie qui s'intitule à propos des acides chlorhydriques et éthanoïques. Alors ce sujet est un peu ancien, mais il est bien parce qu'il permet de balayer beaucoup de notions donc sur les acides et bases notamment ainsi que les titrages. Alors la première question est une question qu'on va retrouver souvent en première question sur ce type de sujet. Définir un acide selon Brønsted, on pourrait avoir la même question, définir une base bien sûr selon Brønsted. Donc à savoir par cœur, c'est des points qui doivent être facilement gagnés et qui permettent aussi de gagner du temps sur les autres questions. Donc il faut que ça aille du tac au tac. Donc un acide selon Brønsted, c'est une espèce chimique bien sûr de capable de céder un proton H+, une base c'est l'inverse, capable de gagner un proton H+. Deuxième question, des questions aussi classiques. On a la formule par exemple d'une espèce chimique et on demande l'équation de la réaction avec une autre espèce chimique. Là, c'est une réaction acido-basique. Donc le chlorure d'hydrogène, sa formule chlorure d'hydrogène, c'est HCl. Si on la met dans l'eau, on sait que l'eau a la propriété d'être une espèce donc amphotère qui peut être à la fois acide et base. Donc ici, le chlorure d'hydrogène et l'acide éthanoïque étant donc des acides, on sait que l'eau va jouer le rôle de base. Donc quand on écrit HCl, donc HCl joue le rôle d'acide, on le fait réagir avec l'eau qui joue le rôle de base. Donc HCl va perdre son H+ pour donner Cl-, et le H+ va être capté par H2O pour donner l'ion H3O+, à connaître aussi par cœur cet ion-là qu'on appelle aussi l'ion oxonium. Cet ion oxonium est très important, on le sait, pour définir le pH par la célèbre relation pH égale moins log donc de H3O+. On fait pareil pour l'acide éthanoïque, c'est H3COH. Donc c'est l'acide, c'est un acide, on le sait, c'est aussi un acide carboxylique. Ça aurait pu être aussi une question d'entourer le groupe caractéristique COH. En tout cas, c'est un acide, donc il est aussi capable de perdre un H+. Donc c'est H3COH qui perd un H+, il devient CH3CO-. Et ce H+, il ne part pas dans la nature, il va être capté par la molécule d'eau, H2O, pour donner encore une fois l'ion H3O+. Pour la question 2.1, donc c'est des questions aussi qui tombent très souvent, de déterminer la concentration des ions oxonium quand on a le pH. Comme on l'a dit tout à l'heure, pH c'est moins log de H3+, ou de H3+ sur C0. Mais il faut savoir retourner l'expression, donc si on veut H3+, c'est C0 fois 10 moins pH, ou 10 puissance moins pH directement, puisqu'on sait que C0, la concentration standard, vaut 1 mol par litre. Donc H3+, il vaut 10 puissance moins pH. On l'applique pour les deux solutions là dont on nous parle, S1 et S2. Donc ça fait 10 puissance moins 2 pour l'acide chlorhydrique et 10 puissance moins 3,4 pour l'acide éthanoïque. On donne un arrondi avec notre calculatrice. Donc ça nous donne 1 10 moins 2 bien sûr pour l'acide chlorhydrique et à peu près 4 10 moins 4 mol par litre pour l'acide éthanoïque. À la question de 2.1, on nous propose de faire un tableau d'avancement. Alors ça nous permet aussi de revoir en même temps le tableau d'avancement, et ça peut être un outil intéressant selon les questions. Donc ici, là, il était imposé. Donc dans un tableau d'avancement, on rappelle qu'on met des quantités de matière toujours, donc des petits n en mol. On a plusieurs états à considérer. L'état initial au départ, en cours, où on a de moins en moins de réactifs et de plus en plus de produits. Et l'état final, ou l'état d'équilibre, quand c'est une réaction équilibrée. Et si la réaction est totale, on parle aussi d'état final maximal avec le fameux Xmax. À noter également que quand on fait un tableau d'avancement avec l'eau en tant que solvant, comme c'est des solutions donc aqueuses, l'eau est largement prédominante et donc est en excès. Donc on sait que quand on va remplir le tableau d'avancement, c'est forcément l'autre espèce chimique qui va être le réactif en défaut, qu'on appelle aussi le réactif limitant. Donc quand on remplit comme ça un tableau d'avancement, on met C fois V pour l'état initial, la quantité de matière initiale, puisqu'on a la concentration et le volume. Comme ici tous les nombres stoichiométriques sont égaux à 1 en cours, on aura moins d'espèces HA, donc on met CV moins X comme c'est un réactif. Si devant HA, bien sûr, il y avait un nombre stoichiométrique comme 3, ça aurait été CV moins 3X, mais ici, comme c'est 1, c'est un cas simple, CV moins X. On fait pareil pour l'état final, CV moins XF, et l'état maximal, CV moins Xmax, qui est égal à 0, puisque la réaction est totale, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est forcément lui le réactif limitant, comme l'eau est en excès. Pour les produits, on sait que les produits, il va s'en former de plus en plus. On a deux produits ici qui sont H3O+, d'un côté, et A-, la base conjuguée de HA. Au départ, on n'a pas de produit, donc leur quantité de matière est égale à 0, état initial 0. En cours, il va se former X mol de H3O+ et X mol de A-. À l'état final, XF mol de H3O+ et de A-. Et donc si la réaction est totale, X max mol de H3O+ et de A-. Question qui tombe très souvent pour savoir justement si ce sont des acides qui vont totalement se dissocier dans l'eau, réagir avec l'eau, c'est le taux d'avancement final. Donc déjà bien connaître sa définition, c'est une question qui tombe très souvent. Donc le taux, sa définition qu'on note par la lettre tau, la même lettre qui est utilisée par exemple en électricité pour tau égale R fois C. Donc ici en chimie, tau c'est XF sur X max. Alors XF, comme on le voit dans le tableau d'avancement, c'est la quantité finale de l'ion oxonium H3O+ sur X max. Alors la quantité de H3O+, on le sait facilement la déterminer puisqu'on sait que la concentration de H3O+ est 10 puissance moins pH. Donc on se rappelle aussi bien sûr de la relation N égale C fois V, donc ça va faire 10 moins pH fois V pour la quantité de H3O+ finale ou à l'équilibre, EC. Sur la quantité maximale, d'après le tableau d'avancement, on voit que X max tout de suite vaut C fois V, dernière ligne. On a donc V au numérateur et au dénominateur, il simplifie et on trouve que taux dépend uniquement de 10 puissance moins pH et de C, 10 puissance moins pH sur C. On peut déterminer, donc question 2-3, pour la solution S1 et la solution S2, les taux d'avancement, là ici. Donc pour la solution S1, il vaut 1 et pour la solution S2, il vaut qu'à 10-2. Donc pour la solution S1, il vaut 1, c'est-à-dire 100%. Pour la solution S2, il vaut qu'à 10-2, c'est-à-dire seulement 4%. On voit que la réaction du coup entre l'acide chlorhydrique et l'eau est totale, alors que entre l'acide éthanoïque et l'eau, elle est vraiment très limitée, elle vaut seulement 4%. Passons à la partie 3. Donc c'est aussi des questions qu'on peut trouver très très souvent en chimie. On nous propose de déterminer un protocole opératoire pour une dilution. Donc bien savoir pour une dilution, donc deux possibilités. Soit on utilise la relation Cmer fois Vmer égale Cφ fois Vφ, le fait que la quantité de matière du soluté se conserve. Soit on repère assez facilement aussi le facteur de dilution, là qui était de 10. On sait qu'on veut donc 100 ml de la solution la plus diluée, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre 100 sur le facteur de dilution, c'est-à-dire 10 ml de la solution mère, la solution la plus concentrée. On sait qu'aussi les dilutions doivent être précises et donc il faut utiliser du matériel le plus précis possible. Donc pour prélever la solution mère, on utilise une pipette jaugée et pour constituer la solution fille, on utilise une fiole jaugée, les volumes étant donnés par ce qu'on vient de déterminer pour la solution mère, 10 ml, et pour la fiole jaugée qui est imposée puisqu'on veut obtenir 100 ml de solution fille. Donc une fiole jaugée de 100 ml. Donc, question 1 d'après, question 3.2. On nous dit dans la solution obtenue après dilution, la concentration des ions oxonium a-t-elle été divisée par 10? Alors pour ça, on va réutiliser la même relation à connaître par cœur, H3O+ c'est 10 puissance moins pH, on le fait pour les deux, on trouve 1 10 moins 3 mol par litre pour la solution S1 diluée et 1,3 10 moins 4 mol par litre pour la solution S2 diluée. On remarque donc que pour la solution S1, oui, la concentration d'ion oxonium, on est passé de 1 10 moins 2 à 1 10 moins 3, c'est bien divisé par 10. Par contre, pour la solution S2, on passe donc, il n'y a pas de facteur 10 entre les deux, puisque tout à l'heure, on avait trouvé 4 10 moins 4, et là, on trouve 1,3 10 moins 4, donc il n'y a pas de facteur 10 entre les deux. Question 3.3, dans le cas de l'acide éthanoïque, dans quel sens s'est déplacé l'équilibre du système? Donc, on constate que on peut redéterminer un taux d'avancement là ici, final de la réaction. Donc taux c'est 10 moins pH sur C en reprenant la même formule que tout à l'heure, à part que le pH a changé, il vaut 3,9, donc ça fait 10 puissance moins 3,9 sur 10 puissance moins 3 égale à 0,13 ici, donc 13%, alors que c'était seulement 4%. On remarque que grâce à la dilution, ça a permis de déplacer l'équilibre dans le sens direct, puisque le taux se rapproche de 100%, même si on en est très loin, mais 13% par rapport à 4%, on est quand même plus proche des 100% que tout à l'heure. Enfin, dernière partie là sur un peu les solutions. On nous propose, on nous dit qu'il y a une constante là, enfin il y a une grandeur, pardon, qu'on peut définir. Alors, j'espère que vous l'aurez reconnu, il s'agit de la constante d'acidité, on va en reparler à la question d'après, mais c'est quelque chose qu'il faut donner par cœur si on nous la demande. La constante d'acidité du couple ici CH3COH-CH3CO-, qui est définie par CH3CO- en concentration fois H3 plus en concentration sur CH3COH, et tout ça à l'équilibre. Alors, ça sort d'où ça? Ça sort du quotient de réaction déjà qu'il faut savoir définir pour une solution, par exemple ici la solution d'acide éthanoïque, dont on a vu à la première question, enfin la deuxième question, donc justement on avait vu comment on écrivait la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau. Si on écrit le quotient de réaction de cette transformation entre l'acide éthanoïque et l'eau, le produit étant H3O plus et l'autre produit c'est H3CO moins, on définit le quotient de réaction par le produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations des réactifs. En produit, on a H3O plus, donc ça fait la concentration de H3O plus. En produit, on a CH3CO moins, donc fois la concentration de CH3CO moins, sur la concentration de CH3COH, et pour l'eau en tant que solvant, on sait que ça compte pour 1. Et donc si on prend ce quotient réactionnel à l'équilibre, c'est ce qu'on appelle donc la constante d'acidité. Alors on peut calculer sa valeur, puisque la concentration de CH3CO- à l'équilibre, c'est la même que la concentration de H3O+ à l'équilibre, puisqu'on a des nombres stoichiométriques égaux à 1, et on sait qu'on peut le déterminer par 10 puissance moins pH. Et la concentration de CH3COH de l'acide éthanoïque à l'équilibre, c'est quoi? Bah, c'est celle qu'on avait au départ, initiale, moins ce qu'elle a perdu. Et elle a perdu quoi en concentration? Elle a perdu justement la concentration donc de H3O+ à l'équilibre. Et on sait que la concentration de H3O+ à l'équilibre, on peut la déterminer par 10 puissance moins pH. Donc au numérateur, on va avoir du 10 puissance moins pH fois du 10 puissance moins pH, c'est-à-dire 10 puissance moins pH au carré. Et au dénominateur, on va avoir donc la concentration de CH3COH au départ, on sait que c'était C, et elle a varié, elle a diminué, moins donc, comme si on mettait un X, et le X, il vaut, d'après le tableau d'avancement, 10 moins pH. On peut appliquer ça pour cette solution-là. On connaît le pH, donc ça va faire 10 puissance moins 3,4 au carré sur 1,10 moins 2 moins 10 puissance moins 3,4. Et on trouve 1,7, 10 moins 5 en faisant l'application numérique. Donc quel nom donne-t-on à cette valeur qui reste constante même après dilution? Donc cette valeur à bien connaître, donc c'est ce qu'on disait, c'est la constante d'acidité du couple CH3COH, CH3CO-, qu'on note Ka, et à partir de laquelle on va définir le pKa. Alors on ne nous l'a pas demandé ici, mais on pourrait très bien le demander, vous pouvez le faire en application numérique, de calculer le pKa correspondant à ce Ka. pKa, donc c'est moins log de la concentration, moins log de la constante Ka, donc moins log de Ka, moins log donc de 1,7 10 puissance moins 5, on va trouver à peu près 4,8, et cette valeur est caractéristique du couple CH3COH, CH3CO-. On se souvient que plus le pKa d'un couple est petit, et ça veut dire que plus l'acide va être fort. Enfin, dernière partie donc sur le titrage. Michael lit sur une bouteille 7% d'acidité. Il se demande si c'est un pourcentage plutôt en masse ou en volume. Et donc, c'est ce qu'on va voir au cours de ces questions. Alors, première question 5.1.1, question hyper classique qu'on a fait en QQ, qu'on a vu en devoir multiples fois. Il faut savoir la faire très vite. C'est si on a au mois de juin donc un exercice acide-base, c'est aussi une des premières questions. On a donc le réactif titré, par exemple ici l'acide éthanoïque. On nous dit qu'on va le titrer avec donc un réactif titrant, qui est ici l'hydroxyde de sodium, et c'est d'écrire la réaction support de ce titrage entre un acide et une base. Donc l'acide éthanoïque, on reprend sa formule, c'est CH3COH, comme son nom l'indique, c'est l'acide. Et puis il faut bien connaître par cœur donc l'ion hydroxyde, sachant que l'ion sodium ici est spectateur, on n'est pas obligé de le mettre, mais si on le met en réactif et en produit. Mais l'ion hydroxyde, donc qui est une base, ça c'est à savoir par cœur, une base à connaître aussi par cœur sa formule, c'est HO-. Donc si on fait réagir CH3COH comme d'habitude, donc c'est lui l'acide carboxylique qui va perdre le H du COH pour donner CH3CO-, et ce H+, il va être capté par HO- qui est une base, ça aussi il faut le connaître par cœur, pour donner la molécule d'eau. Quand on écrit et qu'on est content d'avoir terminé avec son équation, on repère très vite si c'est juste ou pas, déjà avec les charges. Parce qu'il arrive quand on va un peu vite ou avec le stress, bah, qu'on oublie quelque chose, et là on vérifie très vite. Du côté des réactifs, on est chargé une fois négativement avec le H au moins. Du côté des produits, on est chargé une fois négativement avec le CH3CO moins. Alors il y a de fortes chances qu'on ne soit pas trompé et que ça soit cohérent. Le vérifier aussi, notamment pour les équations acido-basiques comme ici, mais surtout pour les équations c'est d'oxydoréduction qui sont un peu plus complexes, à voir si les charges sont bien égales du côté des réactifs et du côté des produits. Question 5.1.2, question hyper aussi classique et qui tombe très souvent, on demande de donner une, deux, voire trois propriétés que doit avoir une transformation chimique pour être support d'un titrage. Il faut alors, on rappelle les trois, là ici on n'en demandait qu'une, donc une suffit, encore une fois, mettez celle dont vous êtes sûr, parce que si vous en mettez deux et qu'il y en a une de fausse, la réponse est fausse. Donc elle doit être rapide, elle doit se faire rapidement, parce qu'il faut pouvoir voir assez rapidement justement la notion d'équivalence. Si c'est une réaction qui dure 3 heures, ça ne va pas être une réaction qui est support de titrage. Donc elle doit être rapide, elle doit être totale aussi. Ça veut dire qu'à chaque fois que je mets un peu de réactif titrant dans le réactif titré, elle réagit totalement pour être sûr que au moment d'équivalence, on a bien fait tout réagir. Donc elle doit être aussi totale. Et dernière propriété que doit avoir une réaction support du titrage, elle doit être aussi unique. Ça veut dire que c'est la seule réaction qui va se faire dans le Bécher. Il n'y a pas de réaction parasite qui va parasiter justement l'équivalence. Question aussi qui vient très souvent, ce type de question 5.2 là, ici. C'est on demande une relation à l'équivalence. Et pour avoir une relation à l'équivalence, il faut se rappeler tout le temps aussi, c'est de là qu'on part, quelles que soient les questions après, quel que soit le type de titrage, conductimétrique, colorimétrique, pH métrique, il faut savoir qu'on part d'une relation à l'équivalence, c'est-à-dire une relation entre les quantités de matière. Alors ici, on a un cas simple, puisque les nombres stoichiométriques devant CH3COH et H- sont égaux à 1. Mais même si on a un cas un peu plus complexe, on connaît la méthode, c'est n bah, du premier réactif sur son nombre stoichiométrique est égal à n du deuxième réactif sur son nombre stoichiométrique. Ici, il va le 1. Donc ça va nous donner n acide égale n base à l'équivalence, la relation. Et donc après, on sait qu'on veut une relation entre les concentrations et les volumes. Or, n égale c fois v. Et donc, on enchaîne. C1 fois v1 égale cb fois vb à l'équivalence. On retourne, on veut C1 puisqu'on veut la concentration du vinaigre ici qui a été diluée. Donc ça nous donne CB fois VB à l'équivalence sur V1. On fait l'application numérique, on met bien l'unité, on met bien en valeur son résultat et ça donne environ 0,119 mol par litre. On savait que, question donc d'après, que le vinaigre avait été dilué donc 10 fois. Donc pour revenir à la concentration du vinaigre C0, on multiplie par 10 et on trouve 1,19 mol par litre. Question donc 5.3.2. On veut une masse, on a déterminé une concentration. Donc on repasse toujours par la quantité de matière. M est égal, N pardon, est égal à C fois V d'un côté et N est égal à petit m sur grand M. On veut la masse, donc ça va faire la quantité de matière fois la masse molaire. Et on sait que la quantité de matière, c'est aussi C fois V. Donc ce qui va nous donner C fois V fois grand M. On a tout ce qu'il faut pour faire l'application numérique et en faisant tout ça, vous vérifierez, on trouve bien 71,4 grammes. Question 5.3.3. En déduire le volume donc d'acide éthanoïque pur correspondant à cette masse M. Donc, ce sont des types de questions qu'on peut retrouver aussi très souvent. Il faut bien connaître donc la notion de masse volumique et bien sûr savoir par cœur aussi sa formule. Donc la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Savoir la retourner aussi dans tous les sens. Donc là, on veut le volume. Donc on croise, ça veut dire que le volume c'est la masse sur la masse volumique. On a tout ce qu'il faut, attention aux unités. Donc là pour être cohérent, donc on a une masse en grammes, une masse volumique en grammes par millilitre, le résultat va donc être en millilitres. D'après les résultats obtenus, on nous demande si c'est plutôt donc la première formule ou la deuxième formule qui semble plus convenir. Donc la masse d'acide, on vient de la déterminer, 71,4 grammes. La masse de 1 litre de vinaigre, donc c'est la masse volumique du vinaigre fois le volume du vinaigre, donc on raisonne pour 1 litre ou 1000 millilitres. On fait l'application numérique, on trouve 7%. On fait la même application numérique avec le volume d'acide sur 1000, on trouve 6,80%. Donc d'après ce qu'on avait vu au tout départ, ce qui nous annonçait un vinaigre à 7%, ça semble plus correspondre à la première formule. mais la deuxième formule est très proche. Donc on ne peut pas vraiment conclure, c'est pour ça qu'on nous propose, et que c'est cohérent avec la question 5.4, une autre méthode, puisque ça semble trop proche là ici. Et donc ça, c'est une question qui tombe aussi très très souvent. On connaît le pH à l'équivalence, soit par la méthode des tangentes, soit on nous la donne directement comme ici, 8,4 dans les données, et on nous demande de choisir le bon indicateur coloré à utiliser. On sait que pour ça, pour que on voit bien l'équivalence ici, il faut que le pH à l'équivalence soit inclus dans la zone de virage pour passer de la forme acide colorée à la forme basique colorée, qui n'ont pas les mêmes couleurs. Et donc ici, le 8,4, on voit qu'il appartient à 8,210, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir la phénolphtaline. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.